radio, téléspectateurs, ça s'écrit dans les coquilles, mais qui vient exactement à l'instant.
Bonjour à tous, vous plongez dans l'instant M.
Des films, des séries, l'infiltration, talk show, communauté de lecteurs. Bien, je suis désolé. C'est un enjeu politique sur le net.
Cette émission est pour vous, vous tous, qui depuis 18 ans avez rendez-vous avec Monsieur X le samedi sur France Inter à 13h20. Vous tous qui avez tout imaginé sur l'identité de mon invité et ses secrets de barbouze invétérée. Car oui, il se tient face à moi. L'Instant M est filmé à regarder en direct sur franceinter.fr ou sur l'appli de votre téléphone. Monsieur X porte un chapeau et des lunettes. Vais-je réussir à lui faire enlever ? Soyez le bienvenu. X. Bonjour Monsieur X.
Bonjour.
Bonjour. À vos côtés, celui qui recueille vos confidences et les porte à l'antenne. Et à l'écrit, bonjour Patrick Fesneau.
Bonjour Sonia.
La dernière de rendez-vous avec Monsieur X aura lieu samedi. Les fans sont désemparés. Faut-il y voir le résultat de manœuvres souterraines ? Forcément, on s'interroge. Hashtag Instant M.
L'Instant M. La clé des médias avec Sonia De Villers.
On vous en parle sur Inter depuis hier. Le Conseil d'État invalide la décision du CSA qui refuse à Paris Première et LCI leur passage en gratuit. Le sort des chaînes demeure néanmoins incertain tant que le CSA n'a pas réexaminé les dossiers. Mais on retiendra une annus horribilis pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Contesté sur le choix de Mathieu Gallet pendant la grève à Radio France, attaqué de toutes parts sur la nomination de Delphine Ernotte à France Télévisions, au cœur du scandale, numéro 23, chaîne à peine créée déjà revendue, désavouée aujourd'hui sur le cas LCI. Le CSA n'a jamais eu autant de pouvoir que cette année, il n'a jamais été autant attaqué. Patrick Fesneau, la très précieuse Rebecca de Nantes qui travaille à vos côtés hein, depuis des années encore.
Des années,
une femme de l'ombre. Hein.
Exactement.
D'ailleurs, je me suis demandé, c'est pas un pseudo Rebecca de Nantes ? Ça a l'air tout droit sorti d'un SAS.
Oui, ça pourrait. Oui. C'est un joli patronyme et joli prénom, donc pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va rester sur cette interrogation.
Tout est possible.
Donc, Rebecca de Nantes, tout droit sortie d'un SAS, a accepté de déclassifier pour moi vos archives. Elles sont passionnantes. Les auditeurs d'Inter vous ont envoyé des messages par milliers. J'en cite quelques-uns. Marine vous a proposé d'assister à l'émission Les yeux bandés pour respecter l'anonymat de Monsieur X. Tandis qu'un certain Zobro Harris, car les pseudos sont partout, chez les auditeurs aussi. Zobro Harris donc a percé le mystère, lui, je le cite, Patrick Fesneau, n'est pas simplement un journaliste de talent, un peu ventripotent, pardonnez-nous, il est aussi ventriloque. De son côté, Jouffroy affirme, Monsieur X, que vous êtes un hologramme. Bon, donc je peux d'ores et déjà attester que vous êtes bien de chair et d'os, d'ailleurs je vous touche. Mmh. Voilà, ça y est, j'ai touché Monsieur X. N'empêche, vous pourriez avoir été inventé de toutes pièces en fait par Patrick Fesneau.
Inventé. Ouais. Ça tient pas debout. Ça fait quand même plus de 18 ans que je m'exprime sur l'antenne de France Inter.
Oui, mais vous faites que répondre à des questions qu'on vous pose.
Et alors ?
Bah, qui nous dit que vous n'êtes pas simplement un interprète, quoi, un acteur.
C'est ça, je serais le jouet d'un dédoublement de la personnalité de Patrick Fesneau.
Alors, il y a un autre auditeur hein, qui s'appelle Nicolas, qui a même pensé que Patrick faisait les deux voix à lui tout seul.
Et mes informations alors ? Elles ont été rarement démenties,
c'est,
non ?
C'est vrai, mais Fesneau est journaliste, hein, il a été bien avant sa vie à France Inter, peut-être a-t-il mené l'enquête ?
Mais comment voulez-vous qu'un seul journaliste centralise autant de dossiers. Songez que certains auditeurs ont même prétendu que j'étais porte-parole d'un réseau d'anciens du renseignement.
Et alors ? C'est faux ?
Bon, je n'en dirai pas plus sur ce point.
Vous nous refusez la vérité, en fait.
Il n'y a jamais une vérité, Sonia. À votre avis, pourquoi ai-je choisi de m'appeler Monsieur X ?
Bah, je l'ignore, ça vous a jamais démangé de révéler votre identité ?
Bah, quoi bon, mon égo n'est pas mince pourtant, mais il se satisfait de la situation.
Ouais, n'empêche que ça vous agace, je le vois bien, ça vous agace ces insinuations pantin, comédien...
Bah, mettez-vous à ma place, c'est humiliant à la fin, non ?
Bon, donc je le sens, hein, y a une fierté à être un homme de l'ombre, pourquoi vous vous arrêtez ?
Ah non, c'est Patrick Pénaud qui met fin à nos entretiens. Il se prétend fatigué. Moi, je suis en pleine forme.
M comme média. Gardez l'œil ouvert sur France Inter.
Alors comme ça, Patrick Pénaud, il fatigue ?
Oui, c'est le côté hebdomadaire qui me fatigue un peu. J'ai envie de souffler, j'ai envie de... Mais à la radio, où on est quotidien, comme vous, où on est hebdomadaire, comme moi, mais on ne peut pas être mensuel, c'est dommage.
Hein. Et allons-y, et pourquoi pas. Patrick, je suis quand même obligée de vous poser la question. Est-ce que vous avez subi des pressions pour arrêter ? Je vous cite le message de Laurent, auditeur, qui se demandait dès le départ, hein, dès le début de cette émission, je le cite, « Sur une radio d'État, je ne peux que me poser la question, qui manipule qui ? Christophe s'interrogeait il y a déjà 12 ans de cela. Je le cite, j'ai besoin de savoir, c'est une question d'équilibre mental, si Monsieur X est une fiction, s'il existe vraiment, comment expliquer que nul n'ait jamais fait pression sur lui pour qu'il cesse l'émission ? Franchement, Patrick Pénaud, difficile de ne pas y voir une main invisible
non,
aujourd'hui.
Alors, d'une part, pour répondre à votre première question, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter et personne d'autre. Hein, et la direction...
On ne peut même pas y voir une réorganisation des services secrets, une volonté de liquider les archives.
Non, mais je peux même dire, enfin je l'ai ressenti assez gentiment d'ailleurs, que la direction de France Inter est plutôt un peu dépitée de me voir partir.
Donc elle y est pour rien.
Elle y est absolument pour rien, ça je le jure.
Attendez, Monsieur X, est-ce que vous avez des... J'y ai pensé, hein, forcément, et je suis sûrement pas la seule. Est-ce que vous avez des dossiers à révéler sur le PDG Mathieu Gallet ?
Bah, ma chère Sonia, sachez que j'ai des dossiers sur tout le monde.
Est-ce que c'est vous qui dynamitez le CSA avant de partir ? Voilà, donc on restera sur pas de réponse. Donc le CSA, on ne sait pas. La direction, non. Patrick Pénaud, vous avez eu envie de vous arrêter. Comment vous l'avez rencontré, Monsieur X ?
Ah, c'était une rencontre un peu fortuite dans une bibliothèque.
Laquelle ?
L'Arsenal, à Paris.
C'est la bibliothèque, justement, des affaires étrangères ?
Oui, moi j'étais en train de travailler sur un dossier, parce que, bien que de formation journalistique, j'aime bien l'histoire. Et puis j'ai écrit des scénarios historiques. Et voilà, cet individu s'est proposé de me donner des lumières sur certains dossiers. Et voilà comment ça a commencé.
Et qui vous a mis à l'antenne, tous les deux, sur France Inter, il y a 18
ans ? Quelqu'un qui avait beaucoup de talent, à mon avis. C'était Jacques Santamaria, qui était le directeur des programmes de l'époque.
Voilà, grand amateur de fiction aussi, hein, qui a beaucoup pris la plume pour raconter des affaires d'État, des dossiers d'État, les dessous du pouvoir et de l'Élysée.
Grand conteur et aujourd'hui grand scénariste.
C'est ça, exactement. Donc on voit bien où se nouent vos amours tous les deux. Hein. Je rappelle que vous avez publié abondamment dans la série noire avant...
Oui, série noire. Et puis j'étais directeur de collection d'une série télévisée qui s'appelait Série Rose, qui était beaucoup plus légère. Et même coquine.
Patrick Pénaud, la série Rose. Oui. C'est un scoop, je l'ignorais. Alors, il y a eu toutes ces figures de l'espionnage, hein, ces figures qui ont marqué l'histoire de l'espionnage et qui vous nourrissent depuis 18 ans. Il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur.
Georges Pack, directeur adjoint des services de presse de l'OTAN à partir de novembre 1962. En contact avec les services soviétiques depuis 1944, a fourni une partie importante des secrets et des plans de défense de la France et de ses alliés. Détention criminelle à perpétuité, le 7 juillet 1964. Picus, Jean, mécanicien, français d'origine polonaise.
Georges Pack, justement, Georges Pack, Monsieur X vous en a abondamment parlé, vous-même vous avez écrit sur Georges Pack, vous avez fait des recherches. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Georges Pack ?
Georges Pack, c'est un espion, un vrai espion, hein, mais un espion un peu par raccro, par hasard, et c'est un personnage qui, j'ose le dire, m'a ému.
Pourquoi ?
Parce que il a fait preuve d'une grande naïveté, mais c'était parce que il était vraiment partisan, il était vraiment persuadé que lui, au fonctionnaire, mais enfin modeste,
au fonctionnaire, passé du côté des soviétiques.
Oui, il était persuadé que lui, il allait permettre à la paix d'aboutir. Il était persuadé d'aboutir à un rapprochement entre les
Donc
deux
Donc c'était un idéaliste convaincu.
Complètement. C'était un idéaliste et bon, en plus, Mais c'est pas la raison principale pour laquelle ce personnage m'est vraiment sympathique. En plus, il a pas fourni grand chose comme renseignement aux Soviétiques.
Il a néanmoins été condamné à mort, hein, pour ça.
Oui, et puis il a été ensuite gracié par son condisciple Georges Pompidou, mm-hmm. parce que c'était un normalien. Il a été soutenu par des gens honorables et très connus comme Maurice Clavel, etc. Enfin, non, c'était vraiment un personnage attachant.
Dans le dernier ouvrage que vous avez publié, Un grand livre des espions chez Fayard, il y a un chapitre sur Georges Pec, et puis il y a aussi cette préface où vous revenez sur l'idée que tous sont trahis pour des raisons différentes, mais finalement rarement pour de mauvaises raisons, souvent pour de belles raisons.
Oui, bien sûr, il y a une belle époque, si j'ose dire, c'était l'époque qui a précédé et suivi la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm. où, pour ne parler que des espions de l'Est, ces hommes-là trahissaient par idéal, parce qu'ils croyaient à ce qu'ils faisaient, parce qu'ils croyaient encore au communisme, malgré Staline, malgré... Donc c'était des espions qui n'étaient pas vénaux, c'était mm-hmm. des espions qui travaillaient par idéal, et cela me plaise bien.
Alors, il y en a un autre, hein, dans votre panthéon qui revient fréquemment, c'est Anthony Blunt. Blunt, il est totalement fascinant. Il est anglais, Georges Pack, donc, est bien de chez nous. Anthony Blunt est anglais. Anthony Blunt, c'est un des plus grands historiens d'art britannique.
Spécialiste de Poussin.
Voilà. C'est l'un des cinq de Cambridge sur lequel il y a eu, mais alors, et ça ne s'arrêtera jamais, tant de films et de romans parce que l'histoire reste et demeure fascinante. Et
il est fascinant, Blunt, effectivement. Homosexuel. Mmh. Esthète, mmh. qui va devenir conseiller de la reine actuelle, Elisabeth, conseiller artistique de la reine, et en même temps c'est un grand enseignant, et lui va trahir parce que dans les années 30, au mi-temps des années 30, il a été recruté avec ses camarades de Cambridge par un type très très brillant, un soviétique très très brillant, qui a compris... C'est un idée de génie qui a compris que ces étudiants de Cambridge, qui n'étaient pas encore entrés dans la vie, ouais. qui n'avaient pas encore fait de carrière, allaient devenir des gens qui seraient proches du pouvoir. Et donc il les a recrutés, c'était par anticipation.
Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Blunt, c'est que il commence par trahir les Britanniques pour les Soviétiques pendant de très nombreuses années. Finalement, il abandonne au moment des purges staliniennes, c'est ça, quelque chose comme ça. Et il rentre au service du MI5.
Oui, enfin, il va travailler. Vous savez, le principal d'entre eux, Philby, oui. Était aussi. Il a failli devenir patron du MI5. C'était ça, l'idée de génie du recruteur, elle était là. Hein, c'est qu'il avait trouvé les bonnes personnes qui allaient occuper les bonnes places.
Parce que pendant très longtemps, justement, contre ces bons et loyaux services au MI5, cette histoire a été tue. Et quand elle a été révélée par Margaret Thatcher en Angleterre, ça a été un scandale énorme.
Oui, elle l'a fait d'ailleurs pour des raisons politiciennes qui n'étaient guère honorables.
Et enfin, c'est là aussi hein, où l'homosexualité d'Anthony Blunt a été remise sur la place publique et violemment décriée,
oui, ça a été
attaquée.
Dramatique d'ailleurs pour lui, parce qu'il vivait avec... il avait un ami depuis très très longtemps, il vivait conjugalement avec lui, mm-hmm. et l'ami a fait une tentative de suicide et ne s'en est jamais remis. Et cet ami qui était en même temps son maître d'hôtel, son cuisinier, son chauffeur, je ne sais quoi, a alors complètement dépendu de son patron. Alors, et c'est Blunt qui faisait la cuisine, qui chouchoutait son ami qui ne vivait plus que dans la cuisine.
Alors Monsieur X, quand même, j'y reviens, hein, parmi ce panthéon de grands espions, il y a beaucoup d'internautes qui ont mené l'enquête sur vous, ça en fait des pages Wikipédia, ça fait des forums de discussion à n'en plus finir. On a beaucoup murmuré que vous étiez Constantin Melnik, hein, une figure sulfureuse du contre-espionnage français, hein, dans l'entourage de Michel Debré et de Pasqua. Melnik est mort, l'émission a continué. Est-ce que vous êtes néanmoins, vous aussi, un ancien du SDEC ?
Tout le monde a oublié le SDEC aujourd'hui.
Alors le SDEC, donc, c'est l'ancienne DGSE, hein, et pendant la guerre froide dont parlait Patrick, le service a connu beaucoup de règlements de compte, tous azimuts, des dénonciations. Vous avez pu en être victime ?
Ma chère, vous fantasmez, vous me confondez avec Focard.
Avec Focard, donc. Et est-ce que comme Melnik ou comme Focard, est-ce que vous avez fait partie d'un cabinet ministériel sous la 4e ?
Oh non, 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 écoutez, je suis une barbouze, soit un rat de ministère, mais faut choisir.
Et comment vous expliquez qu'en 18 ans, personne n'ait percé ce mystère?
Bah, posez-vous la question.
Moi, je me pose la question à Patrick Penaud, justement. Je la pose parce que tout le monde se la pose, tous les auditeurs se la posent, Patrick.
Vous... Ben oui, on m'a même dit, on va vous suivre, comme ça vous nous mènerez jusqu'à la tanière de Monsieur X. Et ben...
C'est arrivé, parce que je précise qu'il y a des auditeurs qui vous ont donné des rendez-vous secrets dans Paris, avec des noms de code pour que vous puissiez vous reconnaître et vous... Monsieur X nous en a bien peu dévoilé ce matin. Est-ce qu'il a encore besoin de son anonymat? Est-ce qu'il a encore des révélations à vous faire, Patrick?
Il paraît qu'il a de bonnes et grosses révélations à me faire. Alors, malgré ma décision d'arrêter l'émission, peut-être va-t-elle à nouveau voir le jour sur France Inter, un été par exemple.
L'été qui arrive ou celui d'après?
Celui d'après.
Ça veut dire
que
c'est du lourd.
Ne soyons pas impatients.
Ça veut dire que c'est du lourd. Merci beaucoup, Monsieur X. Merci beaucoup, Patrick Penaud. Juste après les infos services publics.
Sonia, Monsieur X est-il une personne handicapée? On parle de la condition des personnes handicapées en France, qui est bien souvent passée sous silence. Avec vos réactions, vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI.